Sœur dans le Seigneur, je suis votre frère, le révérend Samuel El Ouabantou, de Flaming Fire Ministries International. Je suis là pour partager avec vous un thème important intitulé « Se défricher un champ nouveau ». Nous allons lire l'énoncé de ce thème dans le livre de Jérémie, chapitre 4, le verset 3. Et la base scripturaire que nous utiliserons se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 13, du verset 1er. Au verset 23. La même histoire est reprise dans Marc, chapitre 4, le verset 1er au verset 20, et Luc, chapitre 18, du verset 4 au verset 15. Voilà, Jérémie 4, verset 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Merci. Ici, c'est la recommandation que le Seigneur donne à son peuple d'Israël, le Dieu maître de toute la création, qui connaît ce qu'il y a de mieux pour ses enfants, le Seigneur qui veut que ses enfants puissent avoir un rendement meilleur dans leur vie, le conseiller suprême adresse une recommandation vive, directe à ses enfants, pour leur épargner une vie médiocre, mieux encore leur épargner son jugement. Il leur dit: défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Le champ peut représenter une nation, une église, un peuple bien sûr, ou bien la vie ou le cœur d'un homme. Et si nous voulons avoir un rendement positif dans notre vie, nous devons défricher notre champ. Car le Seigneur connaît que une personne qui a un champ défriché, ce champ apportera un rendement meilleur qu'une personne qui laisse son champ en friche. Et si nous voulons avancer, aller de l'avant avec le Seigneur, nous devons prendre soin de travailler. Le champ représente un investissement. Nous devons investir notre temps, notre énergie, notre potentiel, afin d'en requérir un produit, une production qui peut être utile pour notre vie, pour notre épanouissement, pour notre futur. Quelqu'un qui entretient son champ est sûr d'avoir des lendemains meilleurs parce que du produit de son champ, il pourra vivre. Et les biens de première nécessité qu'il ne pourra pas avoir directement avec le champ, il peut échanger les produits de son champ pour acquérir les biens dont il a besoin pour assurer sa survie. Et le Seigneur n'a jamais voulu que son peuple puisse tourner en rond ou bien être en deçà des attentes qu'il a fixées par rapport à lui-même, par rapport à ses promesses. Regardons ce peuple. Et le Dieu d'Israël parle à son peuple de Juda et de Jérusalem. Au-delà de ce peuple, c'est à nous que le Seigneur s'adresse aujourd'hui. C'est à vous qui m'écoutez, c'est à moi à qui le Seigneur s'adresse en disant: défrichez-vous un champ nouveau. Quelqu'un qui laisse son champ dans un état naturel, un état en friche, montre qu'il n'attend rien de spécial de ce champ. Si j'attends quelque chose de meilleur de mon église, de mon couple, de ma famille, j'ai le devoir suprême de travailler dans le champ qui représente ma vie, qui représente mon foyer. Enlever tout ce qu'on peut trouver naturellement dans ce champ. Ça veut dire les petits cailloux, les rocs, les épines, les ronces, tout ce qui peut empêcher la semence de grandir, de pousser et de produire du fruit au centuple. Je dois les dégager. Travailler ces champs, en fait que ces champs deviennent un terrain adéquat, un terrain prompt, prêt à recevoir la semence de vie et produire du fruit qui sera utile pour la vie. Ça, c'est pour l'introduction. Nous allons directement dans les textes des Écritures qui vont nous servir de base pour l'étude biblique que nous allons avoir. Et ce texte se trouve dans Matthieu chapitre 13, principalement du verset 1er au verset 23. Et c'est la parabole du semeur et des terrains. Je lirai l'histoire et nous allons avoir le privilège de parler de quelques versets qui nous concernent. Matthieu 1er, verset 1er, verset 23. Je lirai simplement le verset qui nous concerne directement. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent, eux, la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna un fruit, 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et nous lirons également le verset 17. Nous pourrons commencer à partir du verset 16. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la parole le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Voilà. Ce qui est très important, très captivant dans cette histoire, dans cette parabole du semeur et des terrains, nous voyons le semeur sortir avec la semence qui représente la parole de Dieu, la semence divine qui a les caractéristiques de Dieu, la puissance de Dieu, la semence incorruptible qui représente la parole de Dieu, la semence puissante de Dieu que Dieu envoie dans le monde pour guérir le monde, cette même parole qui a créé l'univers, cette parole toute puissante parce qu'elle a en elle les qualités, les aptitudes de Dieu. Mais la même semence que le semeur a semée dans quatre terrains différents, cette semence n'a pas eu le même résultat sur les quatre terrains. Les résultats de la semence ont été directement liés à l'état du terrain. Le terrain sur lequel la semence est tombée a conditionné la productivité de cette semence. Souvent, nous croyons qu'il suffit d'écouter la parole de Dieu pour avoir un miracle, un changement dans la vie des chrétiens, dans la vie d'une église, dans la vie d'une famille, d'un couple, dans la vie d'une nation, dans la vie de tout un peuple. Mais le résultat provenant de la parole dépend du champ sur lequel est semée cette semence, dépend du cœur de l'homme qui peut représenter ce champ, dépend de l'église, là où la parole de Dieu est adressée. Nous avons le premier terrain qui est le long du chemin. Nous avons vu que la semence qui a été semée du long du chemin a été perdue. Nous avons le deuxième terrain qui est l'endroit rocailleux, l'endroit rempli de pierres. Et le Seigneur dit également que cette semence a été perdue. Nous avons le troisième terrain qui est l'endroit qui était rempli d'épines et de ronces qui ont grandi en étouffant la semence. Également, cette semence a été perdue. Mais ce n'est que sur le quatrième terrain, donc le 25% de la semence qui a été jetée, ce n'est que sur cette bonne terre que la semence a pu s'émanciper, produire de fruits au centuple. C'est l'étude de ces quatre terrains que nous allons approfondir au travers de ces enseignements. Et aujourd'hui, nous parlerons du premier terrain. Et prochainement, nous aurons l'opportunité de continuer avec le deuxième, le troisième et le quatrième terrain. Voilà. Qu'est-ce qui caractérise ce premier terrain? Qu'est-ce que le maître dit? En annonçant cette parabole, pardon, le maître a fait une remarque en disant, les gens qui reçoivent la parole le long du chemin, sont semblables aux gens qui écoutent la parole sans la comprendre. Dans le verset 19, le Seigneur le dit clairement, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Je ferai d'abord remarquer ceci. Jésus enseignait devant une grande foule. Il a annoncé cette parabole qui, de prime abord, était incompréhensible pour la plupart des gens. Et le Seigneur a pris le soin d'expliquer cette parabole, non pas à toute la foule, mais seulement à une petite partie du peuple que lui avait choisi. Si je me base sur le nombre de personnes qui suivaient Jésus, par exemple lors de la multiplication des pains, il y avait environ 5000 hommes qui étaient là à côté de Jésus. Et dans ces temps-là, on avait l'habitude plus de comptabiliser le nombre d'hommes que de comptabiliser également les femmes qui étaient là. Mais en réalité, les êtres vivants qui étaient assemblés, je crois qu'ils n'étaient pas seulement 5000 hommes. Parce que s'il y avait 5000 hommes, je suppose qu'il y avait un nombre plus important de femmes, parce que dans tous les mouvements religieux, les femmes adhèrent plus nombreux aux mouvements religieux que les hommes. Les hommes peuvent avoir des postes importants dans ces mouvements religieux, mais la masse qui constitue la plupart des mouvements religieux, cette masse est constituée par les femmes. Les femmes viennent souvent deux fois ou trois fois plus nombreux que les hommes dans les mouvements religieux. En tant que pasteur, ayant voyagé un peu partout, dans beaucoup de villes dans le monde, j'ai cette expérience, j'ai pu constater cela. Donc j'imagine que cela était valable également à l'époque de Jésus-Christ. Parce que ce n'était pas au temple, mais c'était dans la rue, et les femmes n'étaient pas proscrites dans ces genres de réunions, des rassemblements populaires. Donc si j'imagine simplement qu'il y avait deux fois plus de femmes que les hommes, je dirais bien qu'il n'y avait pas seulement 5000 hommes, mais il y avait également 10000 femmes à côté. Et quand je sais que les femmes en ces temps-là, se déplaçaient, n'avaient pas de crèche pour confier leurs enfants, elles étaient supposées amener leurs enfants avec elles. Et si, en moyenne, je prends qu'il y avait un enfant pour deux femmes, parce qu'il y a des femmes qui n'avaient pas d'enfants, il y en avait qui avaient un, deux, trois enfants. En équilibrant, je dis que s'il y avait deux femmes et puis un enfant pour un couple de femmes qui étaient là présent, je me dirais bien que sur les 10 000 femmes qu'il y avait, sûrement il y avait 5 000 enfants avec eux. Au total, ça me ferait 5 000 hommes plus les 10 000 femmes plus les 5 000 enfants, probablement qu'il y avait 20 000 personnes assemblées autour de Jésus-Christ. 20 000 auditeurs de la parabole, mais Jésus choisit 12 personnes seulement à qui il explique cette parabole. Et il leur a dit, il vous a été donné de comprendre, de connaître les mystères du royaume. N'a pas été donné à tout le monde. En fait, qu'en entendant qu'ils ne comprennent pas et qu'en voyant qu'ils ne voient point. Il a dit, heureux sont vos oreilles parce qu'ils entendent ce qu'ils entendent aujourd'hui. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Parce que plusieurs personnes désiraient voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez. Plusieurs justes ont désiré cela, mais ils n'y sont jamais parvenus. Vous êtes les personnes les plus heureuses. Je me suis posé la question. Aujourd'hui, dans l'Église, le corps de Christ, sommes-nous réellement les personnes les plus heureuses à cause de ce que nous avons entendu? Les justes, les prophètes, les éminents hommes de Dieu de jadis, du temps passé, ont désiré entendre, comprendre les révélations que nous ont été transmises par Christ, par ses apôtres, au travers du Saint-Esprit. Ces personnes ne leur a pas été accordées. Néanmoins, ces gens ont marqué leur temps, leur époque, à cause de leurs œuvres et de leurs exploits au nom du Seigneur. Ils sont devenus des exemples aujourd'hui. Mais l'Église est plus qu'enseignée aujourd'hui. La parole qui était révélée, qui était cachée, scellée jadis, est révélée aujourd'hui. Mais les gens continuent à entendre la parole sans produire des fruits adéquats, sans produire des fruits qui correspondent à la parole, à la révélation que ces personnes ont entendue. Je me demande si nous pouvons toujours continuer à dire « heureux sont les personnes qui entendent aujourd'hui ». Parce qu'aujourd'hui, nos auditeurs dans l'Église, dans le corps de Christ, ne produisent plus les fruits nécessaires par rapport à la parole qu'ils ont entendue. Je suis pasteur, j'étais pasteur en Afrique, pasteur ici en Europe, dans la communauté européenne, en Belgique et en France particulièrement. Et je suis associé de pasteur dans notre église qui est à Washington, D.C. J'ai remarqué dans les trois continents que nous avons les mêmes problèmes. Je ne sais pas, peut-être en Asie ou en Océanie où je n'ai jamais été. Peut-être c'est différent là-bas. Mais j'ai déjà reçu des amis qui viennent de là. Pratiquement, c'est le même problème. Nous avons un problème d'écoute, de compréhension de la parole de Dieu chez le peuple de Dieu. Les gens écoutent la parole, mais ne semblent pas avoir compris cette parole pour être capables de la mettre en pratique. Revenons dans les textes. Au verset 19, le Seigneur dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Quand nous écoutons la parole, il est supposé que la parole que nous écoutons va nous apporter la foi, parce que la Bible déclare dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Sûrement, la démarche habituelle des enfants de Dieu, c'est « Seigneur, donne-moi ta parole et que cette parole suscite la foi dans mon cœur. C'est alors que je pourrai croire en cette parole. » Mais dans les textes originaux, la traduction littérale du mot qui a été traduit par « entendre », c'est le mot grec « akouo ». « Akouo » veut dire « prêter audience ». Si on traduit littéralement, la pensée de ce texte veut dire la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend, et de ce qu'on continue à entendre, et de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire entendre dans le sens de percevoir le son. Ça veut dire être constamment exposé à l'audition de la parole. Entendre, entendre, continuer à entendre, finir par comprendre ce qu'on a entendu de la parole de Dieu. Quand on entend longtemps la parole et quand on arrive à la compréhension de la parole répétée qu'on a entendue, c'est en ce moment-là qu'est née la foi, c'est en ce moment-là que la foi s'installe dans la vie. Jésus a parlé de la parole qui n'a pas produit du fruit en disant, le malin vient enlever la parole du cœur. Marc a dit, Satan vient voler cette parole. Luc a dit, le diable. Ce sont les synonymes qui décrivent toute la même personne. Mais il n'y a que Matthieu qui a pris soin de nous expliquer pourquoi le diable, le malin, Satan, vient voler cette parole. Matthieu a dit, le diable vient voler la parole dans le cœur de ceux qui n'ont pas compris. Donc, la foi ne vient pas simplement en entendant, en écoutant la parole. La foi vient par la compréhension de la parole. Parce que celui qui entend la parole, comme dit Jésus-Christ, et qui ne la comprend pas, cette personne ne peut pas accéder à la foi. Et le diable vole justement, malgré que la personne a entendu la parole. Donc, si Romains 10, 17 voulait dire simplement percevoir le son de la parole, auditionner la parole, cela veut dire que dès qu'on entend, on auditionne la parole, on a directement la foi. Mais c'est faux. Parce que Jésus a dit, quand quelqu'un entend la parole, mais ne la comprend pas, le diable vient voler. Donc pour entrer dans l'esprit de Romains 10, 17, donc il faut entendre constamment la parole, faire de recherche, appliquer son cœur à la recherche, à la compréhension des Écritures. Comme tous ceux-là qui étudiaient les Écritures, comme Daniel, qui cherchait à comprendre, à sonder les Écritures. Comme les chrétiens de Béret qui rentraient à la maison pour sonder les Écritures, pour vérifier si l'enseignement du jour qu'ils ont été était conforme à la révélation que Dieu avait déjà permis qu'elle soit écrite. C'est en comparant, en sondant, en recherchant qu'on parvenait à la compréhension. On s'appliquait à la science de Dieu. Et quand on comprend, c'est alors que la foi vient s'installer. Nous avons des auditeurs paresseux aujourd'hui dans l'église. Après plusieurs années passées à entendre la parole de Dieu, ces gens ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité, comme le disent les Écritures. Après X années passées en Christ, les gens ne parviennent jamais à saisir la portée de la révélation de Dieu, parce qu'ils ne sont jamais assis pour prêter audience à la parole, pour faire des recherches sur la parole. pour chercher à saisir tous les sens, toutes les nuances des révélations divines, arriver à la connaissance, à la compréhension. Le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est en sondant les Écritures, en sondant les Écritures, en sondant la parole de Dieu qu'on arrive à la connaissance. Et cette connaissance, cette compréhension des Écritures apporte une foi qui amène une stabilité dans nos cœurs. Donc, ce n'est plus seulement question d'écouter la parole pour avoir la foi, mais c'est une autre catégorie d'enfants de Dieu qui disposent leur cœur pour recevoir la parole et porter du fruit. La parole doit venir trouver leur cœur dans un état bien disposé. Ce n'est pas un état vide qui attend que la parole vienne pour susciter la foi, mais c'est un état bien disposé pour recevoir les révélations divines. Pour élucider cela, nous allons lire dans le livre Épître aux Hébreux. Nous lirons le chapitre 4. Et là, nous lirons, n'est-ce pas, le verset 2. La Bible déclare, « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi, elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Ah, je répète, « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Hébreux dit, l'auteur des Épîtres aux Hébreux dit que la parole qui nous a été annoncée, cette bonne nouvelle, leur a aussi été annoncée. Il donne un exemple d'un peuple qui n'est pas parvenu à la maturité par rapport à la parole de Dieu, un peuple qui n'a rien reçu de Dieu alors que la parole leur fut adressée. Et l'auteur des Épîtres dit, cette parole ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce que la parole, en venant dans leur vie, la parole n'a pas trouvé la foi. En se limitant en Romains 10, 17, on croit que la parole vient et c'est elle qui crée, qui suscite la foi. Mais selon Hébreux 4, verset 2, la parole, en venant, elle doit trouver également la foi. Cette foi-là, c'est un état d'esprit. Comme Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, nous donc aussi, ayant le même esprit qui est exprimé dans ces paroles des Écritures, j'ai cru, c'est pourquoi je parlais, ayant le même esprit de foi exprimé dans cette parole des Écritures, esprit de foi, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. C'est un esprit de foi, c'est un état, une attitude, un état de cœur, une prédisposition intérieure à croire aux révélations divines. Une prédisposition à accepter ce que le Seigneur déclare. Et cette prédisposition, cette compréhension arrive par l'usage à sonder les Écritures, à comprendre les Écritures, à sonder la pensée de Dieu, à comprendre la manière d'agir de Dieu. Quelqu'un qui connaît la pensée du Seigneur, quelqu'un qui est disposé parce qu'il s'est soumis à l'audition de la parole, à la compréhension de la parole, cette personne croit facilement quand la révélation arrive. Il était facile pour Moïse, malgré les éléments naturels qui défiaient les lois de la physique, malgré ce qu'il voyait avec ses yeux, la mer rouge, bien l'armée des pharaons, il lui était facile de dire aux enfants d'Israël, écoutez, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus. Parce qu'il était constamment en permanence sous l'écoute de la parole de Dieu, sous la révélation du Seigneur. Il auditionnait la voix du Seigneur constamment. Il connaissait les capacités de Dieu. Mais pour le peuple d'Israël qui était en plus grand nombre, avoir un grand nombre, la démocratie n'est pas toujours la raison. Le plus grand nombre, la majorité d'Israéliens, l'armée égyptienne, la mer rouge représentait la mort. Alors que pour Moïse, qui comprenait la parole du Seigneur, qui comprenait les promesses du Seigneur, et par cette promesse, il réalisait la capacité, la puissance de Dieu. De sa vie, il n'avait jamais vu la mer s'effondre en deux, mais il avait écouté la parole et il avait disposé son cœur à croire à ce que Dieu disait. Il pouvait voir les éléments de la nature comme étant des opportunités de miracles. C'est pourquoi il a dit, ces éléments, ces Égyptiens qui représentent un danger pour vous, qui arrivent, vous ne les verrez plus, mais vous verrez éclater la gloire du Seigneur à partir de cette armée égyptienne. Alors que pour les autres, cela représentait la mort. Pareillement aujourd'hui, quelqu'un qui a disposé son cœur à croire à la parole de Dieu adhère facilement aux révélations que le Seigneur donne, soit dans la parole, soit dans les prédications, soit dans les prophéties. Le mot impossible, difficile, ce sont des mots qui perdent leur essence chez quelqu'un qui s'est identifié à la parole de Dieu. Quelqu'un qui a canalisé sa vision par rapport à la vision de Dieu selon ce qu'il a compris de la parole du Seigneur. Mais quelqu'un qui n'a pas encore compris la parole, peu importe le moment, le temps, la durée de sa présence devant cette parole, quelqu'un qui n'a pas encore compris, c'est une personne qui est encore dans la religion. C'est le problème que nous avons dans les églises aujourd'hui, dans le corps de Christ. Nous avons les gens qui ont maîtrisé la coutume, les us et coutumes de l'église, concernant la chorale, concernant le protocole, concernant les services des finances. Les gens ont habitué, se sont habitués aux coutumes de l'église pour gérer l'église en tant qu'une entreprise, en tant qu'une association. Ces gens sont bien placés. Mais pour faire des exploits spirituels, suivre le conseil de Dieu, comprendre la volonté de Dieu, le mouvement du Seigneur, ces personnes sont incapables de comprendre cela parce que leur maturité n'a pas encore été évidente pour tout le monde. Simplement parce que ces personnes n'ont jamais compris la parole de Dieu. Ils sont habitués à entendre, mais jamais ces personnes sont soumises à la parole du Seigneur pour comprendre la parole et la mettre en pratique. L'une des manières pour porter des fruits, aller de l'avant, ne pas être de ceux-là que le diable viendra voler la parole de Dieu par manque de compréhension. L'une des manières de comprendre la parole de Dieu pour qu'elle élise domicile dans votre cœur, c'est la mise en pratique de cette parole. Quand Dieu enseigne sur le pardon, nous devons mettre en pratique cela en pardonnant celui qui nous a fait du tort. Le plus grand tort qui nous fait du mal, nous mettons simplement cette parole en pratique. Quand Dieu nous parle du jeûne, nous ne disons pas, ah, je connais les versets qui parlent du jeûne de la Bible. Non. Nous ne parvenons jamais à la compréhension de la parole simplement en lisant, mais en mettant en pratique la parole de Dieu sur le jeûne, en se mettant de côté pour jeûner, jeûner selon que Dieu le demande, comme c'est décrit dans Ésaïe chapitre 58, les jeûnes selon la volonté de Dieu. Ces personnes qui mettent cela en pratique comprennent réellement ce que Dieu veut dire. Quand Dieu parle sur l'impudicité, ceux-là qui mettent en pratique la parole de Dieu en s'abstinant, par rapport aux recommandations divines, c'est eux qui comprennent réellement ce que la parole de Dieu déclare. Plus nous mettons en pratique la parole, plus nous comprenons la parole, plus nous discernons la volonté de Dieu et nous accédons à la maturité. Quelqu'un qui est mature est une personne qui est sûre de garder la révélation que Dieu lui a donnée. Ce n'est pas une personne mature que le malin, le diable ou bien Satan viendra voler la semence, la révélation, la parole qui a été semée. Cela est expliqué dans Hébreux, le chapitre 5, le verset 14 dit, Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Je préférais lire à partir du verset 11, parce que j'ai parlé de cela, mais j'y remonte au verset 11. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Toujours le même problème de compréhension. Verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Oui, la nourriture solide est pour les hommes faits, par ceux dont le jugement est exercé par l'usage, par l'habitude à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Celui qui a l'habitude de discerner, de pratiquer la parole, de mettre la parole en pratique et de discerner, cette personne-là va acquérir une maturité certaine basée sur l'expérience par rapport à la parole. La parole ne sera plus une théorie, mais la parole prendra vie dans cette personne. Et cette personne représente un champ défriché, un champ qui représente un investissement. Ce n'est plus une personne qui est comme sur le long du chemin, sans compréhension des Écritures, une personne dont nous savons que la production de la semence n'amènera à rien parce que le malin va venir voler. Le diable est à la chasse de la parole de Dieu qui est semée dans le cœur des enfants. La seule chose que le diable craint chez les enfants de Dieu, c'est la parole. C'est en vertu de cette parole qu'il a été chassé du ciel, et c'est en vertu de cette parole qu'un jugement lui est réservé dans les derniers jours. Ce que le diable craint, c'est la parole de Dieu dans la vie d'un croyant. Un croyant qui a compris la parole, qui a compris ses droits, qui a compris les oracles de Dieu, devient un élément très dangereux pour le diable. Les gens multiplient les prières, mais ils n'ont pas toujours la compréhension de la parole de Dieu. Une prière forte est une prière qui est basée sur la parole de Dieu. Le Seigneur dit, réveille ma mémoire, parle toi-même pour te justifier. Dieu n'est pas amnésique, mais Dieu veut voir si nous avons compris sa parole, si nous avons retenu ses promesses. En venant dans sa présence, Dieu dit, parle pour te justifier. Parler avec Dieu, c'est ça la prière. Mais en venant parler à Dieu, rappelle à Dieu les paroles qu'il a dites. Rappelle à Dieu ce qu'il a prononcé parce que Dieu est lié à sa parole. Ce n'est pas après avoir longtemps prié, Seigneur, comme je priais après tel nombre de jours, tu te dois d'intervenir dans ma vie. Niet. Dieu ne se laisse pas impressionner par cela. Parce que je fais ceci ou cela que tu te dois. Non. Rappelle à Dieu ses promesses, ce que tu as dit à cause de ta parole. Même si mes œuvres ne sont pas à la hauteur, même si je ne mérite pas, mais comme tu avais prononcé cette parole à mon égard, je viens te rappeler ta fidélité parce que tu connais mon état. Comme David dit, tu te souviens que nous sommes faits de chair, tu te souviens que nous sommes poussière. Seigneur, agis à cause de ta parole, à cause de ta fidélité à ta parole. Une personne qui a compris la parole, c'est une personne qui a une plus grande garantie de l'exaucement de ses prières. C'est une personne qui va terrasser l'ennemi, qui va terrasser le diable, parce que le diable ne volera pas la semence qui a été semée dans son cœur. Et quelqu'un qui n'a pas encore compris la parole, qui ne passe pas du temps avec la parole, qui ne fait pas de retraite rien que pour lire la parole, pour sonder les Écritures, pour chercher à en comprendre. Nous faisons des retraites de prière, de retraite de jeûne, mais nous ne donnons pas assez du temps à la parole de Dieu. C'est pour cela que nous voyons des chrétiens qui prient beaucoup, mais qui ont toujours un très mauvais caractère, qui empêchent à leur entourage de s'approcher de Christ au travers d'eux. La parole transforme notre être intérieur, parce que quand nous mettons en pratique la parole, quand nous nous soumettons à la parole, même si c'est difficile, en nous soumettant à la parole, notre caractère change. La parole taille notre personnalité. La parole nous modèle avec l'aide du Saint-Esprit. Après avoir été modélé, travaillé par la parole, notre caractère va ressembler à Christ. Quelqu'un qui se soumet à la parole verra sa vie, ses paroles, ses actes ressembler à Christ. Et cette parole pourra être un témoin, cette personne pourra être un témoin fidèle de Christ. Mais quelqu'un, comme j'ai souvent vu, qui passe beaucoup de temps dans la prière, qui passe beaucoup de temps peut-être dans les œuvres, dans l'activisme spirituel, c'est même plus une activité, mais l'activisme, parce que quand on s'empresse d'agir en mettant la parole de Dieu de côté, ça devient du charlatanisme. Et cet activisme spirituel n'attirera pas les vraies âmes converties. Ça attirera les fanatiques, mais pas les âmes converties qui seront à l'image de Christ. Des gens qu'on pouvait regarder à Antioche, regarder leur vie et voir les petits disciples de Christ, voir le caractère de Christ. Et c'est à Antioche que les païens, les gens d'alentour, ont appelé les disciples chrétiens. Les disciples ne sont pas réclamés chrétiens, Mais les gens du dehors ont vu le caractère de Christ en eux. On les a appelés des chrétiens. L'anglais est mieux traduit Christian. En français, ça devait être chrétien. Des gens qui ressemblent à Christ, qui appartiennent à Christ. C'est ce qui a donné chrétien aujourd'hui. Aujourd'hui, le terme chrétien est donné de prime abord à toute personne sans qu'il y ait le fruit de ses actes qui certifient que cette personne suit les enseignements de Christ, cette personne s'identifie aux enseignements de Christ. Si nous revenons à la parole du Seigneur, nous comprendrons que beaucoup de gens aujourd'hui ne portent pas du fruit parce qu'ils ne s'identifient pas à la parole de Dieu. La parole est longtemps volée. Ils sont à l'église du 1er janvier au 31 décembre sans mettre la parole de Dieu en pratique et cette parole ne porte pas du fruit parce qu'elle n'existe plus. Jésus a dit, ne cherchez pas la semence qui est le long du chemin. Le malin l'a volée, les oiseaux du ciel l'ont mangée, les passants l'ont piétinée. Cette parole-là, cette semence-là, bien qu'elle est puissante, bien que c'est la semence divine, mais n'attendez rien de ce terrain-là parce qu'il n'y aura rien. Simplement parce que la personne n'a pas compris la parole, la personne n'a pas saisi la parole, la personne n'a jamais donné le temps à la parole de s'asseoir dans sa vie, de demeurer dans sa vie. Pour que cette parole arrive à maturité, arrive à produire du fruit. Merci. Voilà, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la fin de notre enseignement, la première partie de notre enseignement sur le thème se défricher un champ nouveau, qui est basé sur les textes de Matthieu chapitre 13, verset 1er au verset 23, la parabole du semeur et des terrains. Dans notre prochaine séance, nous allons étudier le deuxième terrain. Le terrain rocailleux, où le Seigneur a semé également cette même semence puissante, mais cette semence qui n'est pas arrivée à maturité, comme il le dit, parce que la semence a poussé, mais elle n'avait pas de racines quand le soleil est apparu, la semence a séché. Nous allons entrer en profondeur pour comprendre la volonté du Seigneur par rapport à cela. Que Dieu vous bénisse, c'est votre bien-aimé, le révérend Samuel El Ouabantou, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Merci.